Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
Soyez les bienvenus dans la matinale week-end RMC.
Il est tout pile 8h. Un tout nouveau journal, Stéphane Genest, bonjour.
Bonjour à tous, la Convention citoyenne sur la fin de vie prête à trancher. Ses membres vont probablement recommander la légalisation d'une aide active à mourir. En pleine polémique sur la gestion du maintien de l'ordre, Gérald Darmanin réplique dans le journal du dimanche ce matin. Et le circuit de l'Albert Park à Melbourne, au cœur de la planète F1 ce matin, le Grand Prix d'Australie y bat son plein et s'est animé.
Et puis à 8h10, le coup de gueule de Pauline Baron du collectif Nous Toutes, Marlène Schiappa, la une de Playboy, ça fait beaucoup réagir, y compris les assos féministes.
Le coup d'envoi du marathon de Paris, c'est tout de suite et on y reviendra dans la Story Sport à 8h20.
La matinale week-end.
Ils sont 184 et ont la lourde charge de se prononcer sur la fin de vie.
La Convention citoyenne, composée de ses 184 membres, rend ses conclusions aujourd'hui et doit répondre à cette question. L'euthanasie doit-elle être autorisée en France? Ce groupe de citoyens y travaille depuis des mois et devrait probablement recommander la légalisation d'une aide active à mourir. Et au cours de ces mois de travail, le texte et les avis ont évolué à Amine Lafchin.
Lorsque Jean-Claude participe à la première session il y a 4 mois, le retraité défend la liberté de chacun. Désormais, il s'oppose fermement au suicide assisté.
Je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir des dérives très importantes, qu'il y ait une exagération à ce niveau-là.
À l'inverse, Didier François, agent de sécurité, se montrait lui plutôt réticent.
C'est au fur et à mesure de discuter avec les autres, de voir ce qui se passait, des rencontres, qui m'a fait changer ma vie.
Profondément marqué par la mort de son ex-femme, décédée d'un cancer généralisé, se donner volontairement la mort lui semblait inimaginable.
Et avec le recul, je laisserai laisser partir. Parce qu'elle est partie dans les souffrances. Si elle aurait pu éviter tout ça...
Yaël aussi s'est ravisé. Au départ contre, il réalise désormais l'intérêt que cela pourrait avoir.
Il y a une utilité parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont en souffrance réfractaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas abréger leur souffrance avec tout ce que le monde actuel peut leur apporter.
Qu'ils soient pour, contre ou qu'ils aient changé d'avis, tous espèrent que le gouvernement tiendra compte de leur travail.
Autre réponse qui sera donnée ce soir, elle concerne l'utilisation des trottinettes électriques en libre-service à Paris. Un référendum se déroule aujourd'hui dans la capitale. La question est simple, pour ou contre leur utilisation.
8h02 sur RMC, les forces de l'ordre, encore une fois, pointées du doigt ce matin.
L'IGPN a même été saisie après la diffusion d'une vidéo montrant une altercation entre un policier et un homme déshabillé des faits qui se seraient déroulés en marge d'une manifestation à Lyon ce jeudi soir. Et ce matin, Gérald Darmanin s'exprime dans les colonnes du journal du dimanche. Le ministre de l'Intérieur qui l'assure, Martin Cadoret, l'inspection générale de la police nationale reste attentive à toute dérive des fonctionnaires.
36 enquêtes judiciaires déjà lancées par l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, depuis le début du mouvement social, chiffre donné par Gérald Darmanin. Quelques dizaines de cas sur 250 000 forces de l'ordre, dit-il, alors que 1093 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés au cours des deux dernières semaines. Et s'il y a usage de la force, dit le ministre, c'est pour contrer les attaques extrêmement violentes de casseurs professionnels. 2200 fiches S concerneraient d'ailleurs des militants d'ultra-gauche, le ministre qui accuse la NUPES de complaisance avec les casseurs et s'inquiète du terrorisme intellectuel de l'extrême-gauche. Après les affrontements à Sainte-Soline le week-end dernier, le premier flic de France annonce également la création d'une cellule anti-ZAD au sein de son ministère avec des juristes spécialisés. Et après le lancement de la dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre, le ministre veut faire de même pour un deuxième mouvement à Rennes. Enfin, sur un volet plus politique, Gérald Darmanin appelle les LR à soutenir la politique du gouvernement, quitte à co-construire avec eux le projet de loi reporté sur l'immigration.
Martin Cadoret pour RMC. Justement, plus d'une semaine après l'incendie du Porsche de la mairie de Bordeaux lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, ce sont 3 autres personnes qui ont été mises en examen, Kevin Gasser.
Oui, le premier suspect a été mis en examen pour dégradation de biens publics par substance incendiaire et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences. Cet homme de 37 ans a été placé en détention provisoire. Il a déjà fait l'objet de 21 condamnations, dont 2 pour des dégradations de biens public. Les 2 autres suspects sont âgés de 25 et 19 ans, eux uniquement mis en examen pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Le parquet a fait appel de cette décision. Pendant une quinzaine de minutes, ce 23 mars, la porte massive en bois de la mairie de Bordeaux avait brûlé avant que les pompiers n'éteignent le feu. Un préjudice estimé à 3 millions d'euros.
Précision signée Kevin Gasset.
8h05 sur RMC. Vous connaissez le porte-avions Charles de Gaulle. Eh bien, il va bientôt avoir un petit frère.
C'était dans les tuyaux. Mathieu Leplon est désormais précis. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, présente ce matin aux Parisiens aujourd'hui en France le contenu de la loi de programmation militaire pour 2024-2030 d'un montant de 413 milliards d'euros avec comme principal projet donc un nouveau porte-avions. Début des travaux prévus pour 2025. Premiers essais en mer, ce sera en 2036-2037. Autre évolution, bien différente cette fois. Elle nous emmène à Saint-Dié-des-Vosges puisque dès juin, lorsque la chasse sera ouverte, eh bien, elle sera interdite les dimanches, uniquement l'après-midi. Un accord a été trouvé entre la mairie et les chasseurs. Bruno Toussaint est le maire de la ville.
Les gens n'y allaient pas le dimanche après-midi parce qu'ils avaient peur avec les enfants. Ça se comprend. Hein. Un enfant se retrouve nez à nez avec un chasseur ou avec un chien en forêt qui court après du gibier, c'est quand même... C'est pas sécurisant du tout et il fallait à tout prix qu'on sécurise notre population. Ce genre de choses ne peut se faire que s'il y a dialogue entre les deux. Et on a eu un très bon dialogue avec les chasseurs et ça se fait en toute intelligence, sans aucun souci et dans la bonne humeur.
Les sports, il est 8h06 sur RMC avec de la Formule 1. Stéphane, direction Melbourne où se déroule le Grand Prix d'Australie.
Et oui Marguerite, troisième course de la saison, course qui tient toutes ses promesses. Déjà deux abandons et on commence à en avoir l'habitude, hein, Jean-Luc Roy. C'est Max Verstappen qui fait la course en tête et il s'envole.
Absolument Stéphane, il a pu dépasser Lewis Hamilton tout à l'heure à la faveur du restart. Il y a eu déjà deux safety cars et un drapeau rouge dans ce Grand Prix très animé. Pour le moment Hamilton est à 8 secondes de Verstappen, toujours leader. Fernando Alonso remonte un petit peu sur Hamilton en troisième position. La première Ferrari c'est Carlos Sainz et du côté des Français, Pierre Gasly est cinquième et Esteban Ocon est entré dans les points, il est dixième.
Jean-Luc Roy qui nous fait vivre ce Grand Prix d'Australie tout au long de la matinée sur RMC.
Le football, la Ligue 1, c'est Lens qui fait la bonne opération du week-end.
En s'imposant sur Rennes 1-0 hier, les nordistes atteignent la deuxième place du classement de la Ligue 1 au détriment de Marseille. Aujourd'hui, suite et fin de la 29e journée du championnat avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Lyon en clôture. Et pour Christophe Galtier, le coach parisien, son équipe doit être au niveau pour s'assurer d'obtenir le titre.
Est-ce que le titre va se jouer là? Si nous sommes performants sur ces trois matchs, en commençant déjà par dimanche, ça nous permettra de maintenir toujours un écart conséquent en termes de points d'avance. Il faut être très vigilant, il faut garder une certaine détermination, une certaine envie d'aller gagner des matchs pour aller avoir l'envie de gagner encore un nouveau titre, ça c'est sûr.
PSGOL, 20h45 à vivre évidemment sur RMC. Puis aujourd'hui, il y a aussi du cyclisme en direction la Belgique avec le deuxième monument de la saison. J'ai nommé le Tour des Flandres, l'une des courses les plus importantes de l'année. Avec un certain Julien Alaphilippe qui sera évidemment scruté puisqu'il le sait, hein, d'autant que son début de saison n'a pas été à la hauteur de ses espérances.
Un tournant, non, je dirais pas ça, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un rendez-vous important pour moi et pour l'équipe. C'est vrai qu'on a manqué de réussite là depuis le début des classiques. L'équipe Jumbo-Visma domine vraiment cette période de classique et on a envie de donner le maximum. Chaque course et spécialement sur ce Tour des Flandres, en espérant un bon résultat qui nous ferait du bien.
Julien Alaphilippe au micro RMC Sport d'Arnaud Souk.
Merci beaucoup Stéphane, on est ensemble jusqu'à 9h sur RMC. Les infos évidemment, on vous accompagne aussi pour commencer ce dimanche et puis on joue sur RMC, c'est tout de suite.
8h08, si vous êtes fidèle, vous savez c'est l'heure, effectivement. Pour vous faire plaisir, nous sommes là, on vous régale le 10 minutes chrono les amis. Nous allons gagner, bon, nous, vous.
Oui, ah, parce que nous on n'a pas le droit de jouer. Hein.
On vous offre. Vous allez jouer pour partir dans un casino hôtel Partouche.
Sympa.
Au choix, Le Havre, Aix-en-Provence, Forges-les-Eaux, Dieppe. Alors, c'est pas seulement le séjour au casino de deux nuits. Vous aurez aussi un repas à la brasserie du casino. 30 euros de crédit de jeu pour jouer.
Mathieu, vous nous faites rêver.
Sans abuser le jeu, mais quand même, 30 euros de mise. Vous voulez remporter tout ça? Rien de plus simple.
Vous composez le 32-16, touche 4, hein, ou vous envoyez matin par SMS au 7-32-16, matin au 7-32-16 pour remporter votre week-end par touche. Bonne chance à toutes et à tous, il est 8h09 sur RMC.
À suivre dans la matinale week-end.
Marlène Schiappa dans Playboy cette semaine pour défendre les droits des femmes. Plus de critiques, malaise dans la majorité. Est-ce que ce coup d'éclat dessert le combat féministe? Bonjour Pauline Baron.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice du collectif féministe Nous Toutes et on va en débattre avec vous. Votre coup de gueule, c'est dans à peine 2 minutes sur RMC.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Allez, 8h11 sur RMC. Soyez les bienvenus. Vos appels au 32-16 pour réagir à tous les sujets d'actualité. Et Dieu sait que celui-ci va vous faire réagir.
RMC, la matinale week-end, le témoin RMC.
Un coup de gueule ce matin sur RMC, celui de Pauline Baron, coordinatrice du collectif féministe Nous Toutes.
Bonjour Pauline Baron.
Bonjour.
Ça ne passe pas. Marlène Schiappa, membre du gouvernement, ministre à la une du magazine de charme Playboy, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, leur accorde cette semaine un long entretien sur les droits des femmes. On a eu la réaction d'Elisabeth Borne hier qui a dit « ce n'est pas approprié ». Est-ce que vous êtes d'accord, Pauline Baron ?
C'est pas approprié, surtout dans le sens où c'est encore une fois une stratégie communication, comme on en a eu beaucoup de la part du gouvernement et notamment de Marlène Schiappa, pour, on va dire, créer une forme d'écran de fumée et ainsi, en fait, détourner l'attention de l'inaction du gouvernement sur la question des droits des femmes, des droits des personnes LGBTQIA+, et des violences.
Oui, mais Pauline et Baron, surtout, vous dites mettre un écran de fumée, mais il y a quand même 12 pages d'interview sur tous ces sujets, LGBT, l'IVG, le droit des femmes. C'est quand même une belle mise en lumière de tous ces combats aussi, non ?
Je dirais que la principale sensibilisation à ces questions-là, si en tout cas c'est ce que voulait faire Marlène Schiappa, il aurait été, je dirais, de s'adresser avant tout aux plus jeunes générations, notamment en respectant la loi de 2001 qui vise à appliquer 3 fois par an des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, parce qu'on sait que c'est par ces jeunes générations qu'on va véritablement changer les choses et éviter en fait une reproduction de génération en génération des violences sexistes et sexuelles. Mais là encore, il fallait, comme je le disais, faire un écran de fumée parce que, et on l'a vu en 2017 au moment de la loi Schiappa contre le harcèlement de rue, où elle avait fait une vidéo d'elle marchant dans la rue pour prouver qu'il n'y avait pas de harcèlement de rue, ciblant précisément des personnes racisées. L'idée, c'est vraiment de, et depuis toujours sur cette question-là des violences sexistes et sexuelles et de la politique du gouvernement, on fait de la com, beaucoup de com, mais derrière, il n'y a pas de fond.
Donc
et
si là, je vous suis bien, en fait, si je vous suis bien, Pauline Baron, ça veut dire que ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est plutôt elle-même votre problème. C'est Marlène Schiappa, elle, sa forme, le fait qu'elle fasse ses déclarations dans un magazine de charme, c'est ça qui ne vous convient pas.
Bah, plus que elle, c'est la façon dont le gouvernement, et notamment en matière de droits des femmes et de lutte contre les violences de genre, qui pose problème. Et je dirais, là, c'est encore plus... Ça la concerne pas qu'elle, je dirais, actuellement. On le voit, on sort d'un moment quand même très tendu sur la question de la réforme des retraites. Et la réforme des retraites va être quand même une réforme qui... Un ministre l'a reconnu, va beaucoup plus impacter les femmes et les personnes LGBTQIA+. Et on voit toute une stratégie
donc pour
actuellement.
Vous, c'est particulièrement malvenu.
Bah, disons que si elle avait voulu vraiment faire changer les choses, améliorer la question, alors déjà c'est pas son portefeuille d'action, donc ça fait un peu.
Mais ça l'a été. Ça l'a été. On peut pas nier que Marlène Schiappa s'est quand même beaucoup engagée, alors d'une manière qui vous plaît plus ou moins sur ces sujets.
Oui, elle, ça a été, mais à l'heure actuelle, c'est plus son ministère d'action. Elle l'a été. Moi, j'aurais préféré qu'elle donne 2 milliards d'euros à la lutte contre les violences de genre, plutôt, voilà, quand elle était en poste. Mais j'ai perdu ce que j'allais dire. C'est pas grave.
si vous voulez, je vais vous faire écouter justement un son qui va vous faire réagir, Pauline Baron. C'est Ludovic Mendes, député Renaissance de Moselle, donc député de la majorité, qui était hier sur BFM TV.
Je pensais que c'était un 1er avril en avance. En fait, la réalité est là. Je fais partie des gens qui se sont posé cette question. Je peux comprendre le combat féministe. Je vois pas Playboy parler aujourd'hui du féminisme. Donc, il y a un vrai problème de message que l'on fait passer. Et la réalité, c'est que au moment où on est en train d'avoir le pays avec des personnes radicalisées qui le mettent à feu et à sang, on a des personnes qui représentent la majorité et le gouvernement qui posent dans un magazine comme celui de Playboy.
Finalement, vous êtes d'accord ?
Oui, alors sur avec le terme député. Radicalisé, je ne suis pas sûre.
En oui, fait, alors ça peut-être, mais c'est un autre débat.
Ouais, quand on voit que des personnes LGBTQIA+, ont été arrêtées alors qu'elles étaient juste dans un bar, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler
alors, de radicalité. Alors ça, c'est un autre mais bon, débat, mais ouais. Sur la question de Marlène Schiappa, je vous dis, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que moi, quand j'entends ce député, je me dis qu'il est machiste, qu'il est sexiste. Et qu'en fait, Marlène Schiappa, bah, finalement, elle a plutôt fait preuve de panache.
Après, on a toujours plus jugé l'action des femmes politiques de façon critique, négative, que les hommes politiques. Ça, c'est clair. Il y a toujours, c'est de la discrimination qui ne s'efface pas parce qu'on est femme politique. Donc, nécessairement, même quand c'est de son camp, hein, on l'a vu depuis toujours, hein, je veux dire, rappelons-nous Ségolène Royal au moment de la présidentielle, c'est toujours, entre guillemets, plus facile pour les hommes politiques de les critiquer leurs collègues féminines que leurs collègues masculins, pour le coup. Donc,
Et Marlène Schiappa s'est défendue, hein, elle a réagi sur Twitter, voici ce qu'elle a dit, « Défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est partout et tout le temps. » Est-ce qu'elle n'a pas réussi finalement son coup? On parle de ça, on fait débat, finalement, c'est une méthode comme une autre pour faire avancer le débat, les questionnements sur le droit des femmes, des communautés LGBTQI+.
Bah, comme je le disais au départ, on parle pas, pour le coup, du fond, mais bien de la forme, encore une fois. Donc, on est, comme je le disais, dans une forme communication politique. Si elle avait vraiment voulu faire avancer cette cause, elle mettait 2 milliards d'euros. Enfin, elle,
oui, vous nous l'avez dit.
En tout cas. Au président de mettre 2 milliards d'euros, elle ferait respecter la loi d'éducation à la vie sexuelle et affective. Il faut savoir que depuis, donc, c'est une loi qui date de 2001. Et d'après une
étude qu'on a fait,
on a seulement actuellement 13% de cours qui sont assurés.
Mais dans la méthode, finalement, quand je vous entends, je me dis, est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises féministes? Vous seriez une bonne féministe et Marlène Schiappa une mauvaise?
Non, parce que ça voudrait dire juger de quelqu'un, et pour le coup, je ne jugerai jamais de l'engagement d'une personne.
Donc on peut être féministe et accorder une interview à Playboy.
Disons que accorder une interview à un magazine qui promeut le sexisme au moment où, en début d'année, on a quand même eu un rapport du Haut Conseil à l'égalité qui pointait une remontée des faits et des opinions sexistes en France, c'était beaucoup moins pertinent que d'aller, comme je le disais, faire des heures d'éducation à la sexualité.
Mais ça peut être aussi un moyen de s'adresser à un public justement qui n'est pas concerné par ces questions. Là, elle va là où ça pose problème.
Disons que si vous regardez, par exemple, on en parle beaucoup dans les cas de violence conjugale, les stages de responsabilisation auxquels les hommes condamnés pour des faits de violence conjugale peuvent être condamnés. Bah, en fait, on se rend compte que ça marche très peu. Ça a peu d'impact sur eux. Je pense que vraiment la question, on veut sensibiliser des personnes aujourd'hui, c'est les jeunes générations, parce qu'on sait que c'est par ces générations que les choses ont changé.
Merci beaucoup Pauline Baron. Vous n'êtes pas convaincue par cette interview de Marlène Schiappa dans Playboy. Alors on a surtout parlé de la forme parce qu'on n'a quand même pas encore le fond. Il faut préciser, on ne sait pas précisément ce que dit la ministre. Mais vous nous l'avez dit, c'est pas le bon médium. Ce que vous attendez plutôt pour la cause des femmes, c'est de l'argent. 2 milliards sur la table, c'est ce que vous avez dit en direct sur RMC ce matin. Playboy qui sortira d'ailleurs le jeudi 6 avril. On en saura plus donc en même temps que la prochaine mobilisation contre la réforme des retraites.
Quel timing. Il est 8h20, vous êtes sur RMC.
À suivre dans la matinale week-end.
Ah, ça y est, les premiers concurrents du Marathon de Paris se sont élancés. Et parmi eux, Mathieu Blanchard. Ça vous dit quelque chose? C'est normal. C'est l'ancien candidat de Koh-Lanta.
Et on en parle dans la Story Sport. À tout de suite sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Vous écoutez RMC, il est 8h22, soyez les bienvenus, on est ravis de vous accompagner en ce dimanche matin. C'est toujours un plaisir de partager le week-end avec vous, on est bien là, tous ensemble. On va se marrer tout à l'heure, enfin on va découvrir surtout une histoire assez insolite qui nous a fait un peu rêver, je dois vous dire. Un gagnant de loterie qui a gagné deux fois, ça se passe aux États-Unis, mais tout d'abord, la Story Sport.
La Story Sport.
Avec vous, Julien Taxis. Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Il était menacé par le contexte social. Eh bien, il a lieu. C'est en ce moment. Le marathon de Paris vient de s'élancer il y a quelques minutes du côté de l'Arc de Triomphe.
Et parmi les 45 000 participants, tu es venu nous parler d'un coureur en particulier. Il s'appelle Mathieu Blanchard.
Eh oui, il a 35 ans et vous le connaissez peut-être si vous êtes un amateur de Koh-Lanta. Il a participé à l'émission en 2020, éliminé assez rapidement d'ailleurs dès le 11e jour. Une expérience qu'il a voulu mettre de côté car elle lui collait un petit peu trop à la peau. Les curieux dans la rue ne l'appelait plus Mathieu Blanchard, mais Mathieu Koh-Lanta. Un petit peu frustrant forcément pour un garçon qui n'est autre que coureur professionnel, spécialiste de l'ultra-trail. Vous savez, c'est cette pratique qui consiste à courir en pleine nature sur des distances de dingue, 80 km minimum, avec des dénivelés parfois ahurissants. Mathieu Blanchard est même l'un des tout meilleurs au monde. Deuxième notamment de l'ultra-trail du Mont-Blanc l'an dernier, derrière la légende Kylian Jornet. Mathieu Blanchard vit d'aventure et de défi, son dernier en date, et donc le marathon de Paris, pour lequel ce coureur de l'extrême, et oui, a quand même dû se préparer.
J'ai fait les gammes que mes copains de coureurs de route m'ont dit. Je suis allé sur des pistes qu'on appelle en tartan, je suis allé faire ce qu'on appelle des fractionnés. C'était pas forcément agréable, mais bon, on verra si ça sert bien à quelque chose ou pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est la Côte d'Auteuil. Moi, Paris, j'y viens pas souvent. On m'a dit que ça montait, que ça descendait. Pareil, que ça sera mieux pour moi parce que je suis trailer. Donc, au contraire, la côte, elle va m'exciter, je pense.
Ouais, trailer, j'ai l'impression que du coup, marathon de Paris, les doigts dans le nez, non?
Normalement, c'est facile. Oui, non, c'est pas son premier marathon. Il a déjà participé au marathon de New York, Toronto et Boston, mais c'est la première fois qu'il s'aligne, Mathieu Blanchard, sur l'épreuve parisienne. Pour un garçon qui est habitué à courir parfois plus de 20 heures, vous vous demandez peut-être quel est son objectif chiffré en termes de chrono sur ce marathon de Paris. La réponse avec le principal intéressé.
J'aimerais bien courir sous la barrière des 2h30. Paraît que c'est pas trop mal. Alors, c'est sûr, c'est pas un temps de Kenyan, mais pour un trailer qui a des gros cuissons, ça serait pas trop mal, quoi.
Ouais, 2h30, c'est pas un chrono de Kenyan, ok, mais c'est pas mal quand même. Ça nous donne une petite moyenne de 17 km/h et potentiellement une place dans les 50 premiers. Pour rappel, l'an dernier, le vainqueur, l'Éthiopien Desso Gelmissa, avait remporté l'épreuve en 2h05. On va donc surveiller la performance de Mathieu Blanchard sur ce marathon de Paris pour voir si l'ultra-trailer parvient à passer sous la barre des 2h30. Et plus globalement, on a une grosse pensée pour tous les participants, notamment Mao Becker-Granier et Romain Cluzel de la rédaction d'RMC. C'est long quand même, 42 km. Bonne chance à tous.
Oh que oui, c'est long. 42 km, 195.
Oui,
oui, c'est vrai, il faut
les
le préciser.
195
et ça peut faire mal les derniers quand on pense que c'est fini. Mais non, il y en a encore 195. Bon courage à tous les marathoniens. Les premiers départs, c'était il y a une vingtaine de minutes. Donc là, vous devez être en train de courir, peut-être avec RMC dans les oreilles. Qui sait ? Bon courage à tous. On vous soutient ce matin sur RMC. Vous restez avec nous, Julien. Peggy Broch a une super histoire à nous raconter.
L'histoire du week-end.
C'est un homme chanceux, Peggy, et c'est même l'homme le plus chanceux du monde, il faut le dire.
Ah oui, c'est clair. Alors écoutez bien, selon les spécialistes, ça se passe aux États-Unis, la chance de gagner 2 millions de dollars à un jeu est d'une sur 1 500 000.
Oui, donc rien.
Il laisse pas beaucoup de chance, on est bien d'accord. Alors pour Faris Frank, un Américain de 41 ans vivant à Advance en Caroline du Nord, ce n'est pas juste de la chance, moi j'appelle ça la baraka, la providence, il est tombé dans la marmite dès le plus jeune âge. Je vous explique, il était sur la route du boulot et puis il décide de jouer. Alors il a joué 20 dollars au Diamond Dazzler, c'est le nom de la loterie, et là, bingo, il remporte 2 millions de dollars. Ça, c'était au mois de mars, là, il y a quelques jours. Incroyable. Il dit avoir été en état de choc. Bah, tu m'étonnes. Parce qu'en fait, 2 millions de dollars, ça, c'est une belle somme, oui. Mais surtout, ce n'est pas la première fois qu'il gagne, le garçon. Il y a un peu moins de 2 ans, il a déjà remporté le jackpot d'1 million de dollars. 3 millions en moins de 2 ans.
J'adore
en jouant un autre jeu de la même loterie. Et alors, pour annoncer à sa femme il y a quelques jours qu'il avait de nouveau gagné, il l'a appelé, il a dit « Chérie, j'ai recommencé. »
Ça, c'est le mieux. C'est meilleur punchline.
À ce stade-là, je pense qu'il peut recommencer autant de fois qu'il veut. Et alors, quand on lui a demandé ce qu'il voulait faire de cet argent, il a dit qu'il partira en vacances. Je pense qu'il peut partir en vacances à vie.
Ça, c'est clair. Modeste.
Moi, je partirais où en vacances? Je partirais
faire un
tour d'Europe, peut-être. Non, un tour de l'Amérique latine, tiens.
Ça vous fait rêver. Et bien, justement, sachez qu'il y a quelqu'un aussi qui va peut-être toucher le jackpot.
Aha.
Parce que dans le 10 minutes chrono, on vous envoie
au casino.
Le million.
La matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Le million, je sais pas, Marguerite. Mais quand j'ai même, casino, hôtel par touche, deux nuits, 30 euros de jetons, un repas à la brasserie, voilà ce que vous gagnez ce matin. Vous avez joué avec nous. Et c'est Ludovic qui a gagné. Bonjour Ludovic.
Bonjour tout le monde.
Salut Ludovic.
Salut, salut.
Et ben voilà, c'est pour vous Ludovic. Vous avez gagné ce petit séjour pour deux nuits dans le casino hôtel Partouche. Vous savez avec qui vous allez partir? Je suis un peu curieuse Ludovic.
Bah oui, je vais y aller avec madame, ça va lui faire un grand plaisir.
Et puis, oh, un petit week-end en amoureux, on adore.
Et ben oui, c'est très bien, il faut... ça va... On va bien profiter, les beaux jours arrivent, donc ça tombe pile poil bien.
Eh ben voilà, ben alors là j'en suis ravi Ludovic, faites comme l'américain, essayez votre chance pour avoir le petit jackpot.
Ben oui, deux fois.
Ben pourquoi pas, n'abusez pas du jeu Ludovic, mais profitez bien. Merci de votre fidélité.
Eh ben merci à
bon
vous.
Week-end.
Et merci
à bon week-end. Et profitez bien surtout.
Salut, à bientôt. Il est bientôt 8h30, vous êtes sur RMC.
Et dans un instant, un nouveau journal avec à la une ce référendum pour ou contre les trottinettes. Les Parisiens votent aujourd'hui.
On se retrouve dans une minute. Dimanche 2 avril, excellent réveil.
Vous êtes sur RMC, il est 8h30. Et c'est l'heure d'un tout nouveau journal avec vous, Stéphanie Rock, bonjour.
Bonjour à tous. Dans l'actualité, cette question, est-ce que vous êtes favorable ou non aux trottinettes électriques? Les Parisiens vont pouvoir voter aujourd'hui. Le débat sur la fin de vie, toujours pas tranché. L'Ordre des médecins vient de rendre un avis défavorable en attendant le résultat de la convention citoyenne dans la journée. Et puis, ils sont un peu plus de 52 000 courageux à prendre le départ ce matin du Marathon de Paris, 46e édition. Nous serons en direct de la course dans ce journal.
Et cette convention citoyenne sur la fin de vie, nous y reviendrons à 8h40 avec deux participants qui sont nos invités du grand entretien ce matin.
Les Parisiens appelés aux urnes aujourd'hui.
Pour répondre aujourd'hui, à cette question qui crée souvent la polémique dans les rues de la capitale, est-ce que vous êtes pour ou contre les trottinettes électriques? Début du vote dès 9h dans vos bureaux habituels. Mais notre reporter Tanguy Roman Clavelou est allé déjà vous poser la question.
Comme à chaque fois qu'elle se balade dans les rues de Paris, Lise et sa mère Caroline ont la même réflexion. Elles ne veulent plus voir de trottinettes électriques.
Ça fout la merde dans toute la circulation et c'est dangereux et les gens les utilisent mal.
Je trouve ça dangereux pour les piétons.
Ces critiques, Eric, lui aussi parisien, les comprend. Pour lui, qui n'a rien contre ces trottinettes électriques, la solution pourrait être l'instauration de mesures plus contraignantes.
Peut-être limiter la limitation de vitesse des trottinettes.
Ces limitations de vitesse ont déjà été réduites en juillet 2019. Pourtant, il y a toujours autant d'accidents, selon David Béliard. Pour l'adjoint à la mairie de Paris en charge des transports et des mobilités, la suppression des trottinettes électriques aura également un effet écologique positif.
75% des utilisateurs de trottinettes utiliseraient soit le bus ou les transports en commun, soit le vélo. Et ces trois modes de transport qui sont décarbonés, propres, verts.
Les résultats du vote seront dévoilés aux alentours de 22h.
Et les opérateurs de trottinettes ont eux de la suite dans les idées. Ils vous proposent un trajet gratuit aujourd'hui avec le code Je vote depuis les applications. Reste à savoir si les Parisiens vont voter pour ou vont voter contre.
Résultat aux alentours de 22h ce soir. Autre grande question ce matin dans l'actualité. Faut-il autoriser l'euthanasie en France?
Les 184 Français tirés au sort pour répondre à cette question vont rendre leurs travaux dans la journée. Cette convention citoyenne devrait recommander la mise en place d'une aide active à mourir, censée trancher la délicate question de la fin de vie, comme les Français, dans leur immense majorité, puisque 75% y sont favorables. Mais pour l'Ordre des médecins, ça reste non. Explication, Cassandre Brault.
Ce qui inquiète les représentants, c'est précisément le rôle et la place du médecin dans ce processus. Un processus qui mènerait à l'euthanasie, qui fait partie avec le suicide assisté de ce que l'on appelle l'aide active à mourir. Un médecin ne peut provoquer la mort en administrant un produit létal, mais si jamais la loi évolue, l'Ordre des médecins a des exigences. Exemple, la mise en place d'une clause de conscience pour garantir l'indépendance du médecin. De plus, l'aide active à mourir ne devra pas être systématique, mais décidée en concertation pour chaque patient. Enfin, l'Ordre demande de protéger davantage les médecins qui participeraient à la procédure.
Il est 8h33 à RMC. Les Verts déclinent l'invitation d'Elisabeth Borne sur la réforme des retraites.
Mais ils seront bien reçus à Matignon mardi pour évoquer la question des violences policières. La députée de Paris, Sandrine Rousseau, qui était l'invitée de BFM TV, dénonce la politique du maintien de l'ordre.
Je suis inquiète d'un changement de maintien de l'ordre, de doctrine de maintien de l'ordre. Quand on voit qu'il y a des manifestants qui sont arrêtés de manière préventive, c'est quand même une atteinte au droit de la manifestation, qui est constitutionnelle en France. Je demande à ce qu'il y ait une mission d'enquête sur la manière dont le maintien de l'ordre a été effectué à Sainte-Soline, quelles étaient les consignes, quelles étaient les politiques de protection des personnes qui étaient sur place, et d'une manière générale, pourquoi il y a une forme d'escalade de la violence vis-à-vis des militants écologistes.
Gérald Darmanin, dans les colonnes du GDD, s'est dit inquiet du terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Le ministre de l'Intérieur qui a annoncé la création prochaine d'une cellule anti-ZAD suite au débordement pendant les manifestations à Sainte-Soline le week-end dernier. Et puis cette information BFM TV, le parquet de Lyon ouvre une enquête suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où l'on voit un policier arracher les vêtements d'un manifestant. La scène s'est produite jeudi soir en marge d'une manifestation contre les violences policières. L'enquête a été confiée à l'IGPN, la police des polices.
8h35 sur RMC, c'est l'heure des sports, avec le Grand Prix d'Australie depuis Melbourne en ce moment.
Et il y a eu pas mal de rebondissements, Jean-Luc Roy notamment. C'était en début de course l'abandon de Charles Leclerc en deux plus.
Ah oui Stéphanie, effectivement ça va assez mal chez Ferrari, même si Carlos Sainz, le pilote espagnol aux couleurs de la Scuderia, est pour le moment quatrième et remonte un petit peu sur le troisième, en l'occurrence Fernando Alonso. Rien n'est joué hein, pour les places d'honneur, même si Verstappen, qui a commis une erreur il y a trois tours, perdu 4 dixièmes d'un coup, compte toujours 8 secondes d'avance sur Lewis Hamilton, troisième Hamilton donc qui est remonté par Sainz, et puis le français Pierre Gasly avec son Alpine est cinquième, l'autre français Ocon est dixième actuellement.
Ensuite, merci beaucoup Jean-Luc. On suit ce troisième Grand Prix de la saison en direct de Melbourne avec vous ce matin.
Et puis la suite de la 29e journée de Ligue 1 aujourd'hui.
Et le Paris Saint-Germain qui recevra en clôture de cette journée l'Olympique Lyonnais d'un certain Laurent Blanc. Petit événement forcément au Parc des Princes avec le retour de l'ancien entraîneur parisien dans la capitale. Personne ne l'a oublié, Fabrice Hawkins.
Les exploits de Zlatan Ibrahimovic, une domination sans partage sur la Ligue 1 et les titres qui s'enchaînent, Laurent Blanc n'a rien oublié de son passage à Paris.
Le Parc, ça fait partie des bons souvenirs, même si j'ai connu des défaites douloureuses. Mais c'est un beau match à faire. Dans un beau stade, puisqu'on l'a dit, le Parc des Princes, c'est quand même pas un stade neutre. Et contre la meilleure équipe du championnat de France, à mon avis.
Pour certains, la meilleure équipe de l'histoire du PSG a été dirigée par Laurent Blanc. Nicolas Douchez, gardien remplaçant à l'époque, peut en témoigner.
Je pense qu'il a laissé la trace d'un jeu séduisant. Peut-être le jeu le plus séduisant collectivement.
Polo, membre du collectif Ultra Paris, principal groupe de supporters, regrette un peu cette période, même s'il n'est pas pour un retour de l'ancien sélectionneur sur le banc du PSG.
Laurent Blanc a fait ce qu'il fallait au Paris Saint-Germain et moi je trouve que ce club a besoin d'un renouveau, a besoin d'un nouvel entraîneur et pas d'une figure du passé.
En tout cas ce soir, Laurent Blanc espère jouer un mauvais tour à son ancien club.
Et dans les matchs d'hier, la victoire d'Auxerre, victoire parmi les mal classés face à Troyes, 1-0, et Lens qui est allé chipper la deuxième place du classement général en s'imposant en déplacement à Rennes sur le même score, 1-0 également.
Et puis le marathon de Paris, 46e édition, ça y est, c'est parti.
Ça y est, c'est parti. Ils sont 52 000 courageux. Mathieu, ce matin, a s'élancé pour ce marathon. Alors, il y a eu des questions qui se sont posées concernant l'organisation. Benoît Boutron, nous sommes avec vous. Des questions, un service de sécurité forcément un peu particulier. Comment ça se passe sur le parcours de ce marathon ?
Ça se passe bien, c'est la bonne nouvelle ce matin. Aucun incident à signaler, plus de poubelles dans les rues de Paris et le service de sécurité qui fait très bien son travail. On rappelle qu'il y a donc 52 000 participants, 43% de coureurs néophytes qui sont reconnaissables grâce à leur dossard doré, 30% de coureurs étrangers. Vous le disiez un peu plus tôt, la météo est délicate ce matin, 8 degrés, du vent, de la pluie et un parcours légèrement modifié cette année. Toujours 7 arrondissements traversés, 230 mètres de dénivelé positif. En fait, le tracé est modifié sur la fin de parcours avec un passage raccourci dans le bois de Boulogne, un retour en ville via la porte de Passy pour les 4 derniers kilomètres et l'arrivée grandiose qui aura bien lieu avenue Foch. En moyenne, plus de 95% des participants franchissent la ligne d'arrivée au marathon de Paris. On croise les doigts notamment pour Charlie Boncarel, 93 ans, doyen de cette 46e édition qui s'est bien élancée tout à l'heure.
Merci beaucoup Benoît Boutron pour ces explications. On croise les doigts pour lui. Puis vous le disiez, 8 degrés, mais ils ont 42 km pour se réchauffer quand même. Donc ça devrait aller.
Ouais, moi je pensais que les conditions météo seraient plus favorables. Voilà, oh, la pluie, du vent, c'est pas très rigolo. Mais bon, courage à tous.
T'as voulu courir, tu cours, même sous la pluie.
Ça c'est l'esprit de la matinale week-end.
Exactement. Non, on croise les doigts aussi. Tiens d'ailleurs pour nos deux copains d'RMC, de la rédaction d'RMC.
Nos deux collègues.
Romain Cluzel du service politique et Mao Becker-Granier du service reportage, qui s'élancent en ce moment pour ce marathon. On verra quels sont les résultats.
Ils vont faire un super chrono. Je le sens.
Oh mais j'en suis sûr. Allez, soyez les bienvenus sur.
Oh là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le pactole.
On savait que ça pouvait tomber à n'importe quel moment. Qu'est-ce que ça veut dire ce petit bruit?
Eh bien, ça veut dire que les inscriptions sont ouvertes pour gagner le contenu du coffre RMC. On vous offre jusqu'à 30 000 euros. Là, c'est le moment. Vous avez 5 minutes top chrono pour envoyer coffre au 732-16 et vous inscrire coffre au 732-16.
Allez, bonne chance à tous. N'hésitez pas. Dans un instant, une grande question d'actualité. Faut-il faire évoluer la loi Claeys-Leonetti, autrement dit autoriser une aide active à mourir en France? Qu'ont décidé les citoyens tirés au sort à l'issue de 4 mois d'intenses débats? Bonjour Kenza Okansey.
Bonjour.
Bonjour Nathalie Berriot.
Bonjour.
Vous avez participé à cette convention citoyenne sur la fin de vie qui prend donc fin aujourd'hui. On va ouvrir la discussion à nouveau sur RMC avec vous dans 2 minutes.
RMC, la matinale week-end.
8h42, vous écoutez RMC, soyez les bienvenus.
L'entretien RMC.
La Convention citoyenne sur la fin de vie s'achève aujourd'hui. Vous recevez ce matin Mathieu, Nathalie Berriot, une des participantes citoyennes tirées au sort, et Kenza Okandé, membre du comité de gouvernance.
Bonjour Nathalie Berriot.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes aussi documentaliste, très engagée sur les questions de santé mentale. Bonjour Kenza Okandé.
Bonjour.
Vous avez donc participé et piloté aussi, on peut dire ça comme ça, ces échanges au Conseil économique et social. C'est donc tout à l'heure, aux alentours de midi, que le dernier vote aura lieu. Les 184 participants approuveront le texte final des travaux. A priori, 63 propositions, c'est bien ça, qui seront ensuite transmises à la Première ministre, au Président de la République. Je sais que beaucoup de soins a été apporté dans ce texte pour que chaque avis soit représenté dans cette synthèse. Ça fait 4 mois que vous discutez ensemble. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat quand on arrive à ce terme là aujourd'hui, Kenza Okandé?
Alors moi, en tant qu'organisateur, extrêmement, puisqu'en fait, on a réussi à prouver sur un sujet qui est quand même très compliqué. Je dirais être appelé du jour au lendemain pour dire voilà, vous allez débattre pendant 3 mois et demi, 4 mois sur la fin de vie. Alors qu'on sait que c'est un sujet qui cristallise beaucoup de tensions, ça peut être compliqué de se projeter et de se dire voilà comment est-ce que ça va finir. Et aujourd'hui, je pense que justement, on a réussi ce pari-là, de se dire qu'on allait faire de la construction de politiques publiques différentes, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'il n'allait pas avoir un camp qui allait gagner, un camp qui allait perdre, qui allait imposer sa vision, mais de construire à la fois du consensus, parce que quand même, il y a 4 mois de délibération, le but c'est bien de construire des positions communes, qui avec des échanges, des partages, mais par contre, de laisser toute la place à tous ceux qui ont aussi d'autres opinions pour faire en sorte d'éclairer réellement la décision publique.
Nathalie Berriot, justement, quand on vous a appelé pour vous dire vous êtes tirée au sort, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête et qu'est-ce qui a évolué depuis, au cours de ces 4 mois d'échange? Est-ce que votre position a évolué?
Alors, ma position n'a pas évolué. En revanche, elle s'est affinée et mes arguments se sont affûtés. Je vais dire ça comme ça. Je n'avais pas du tout réfléchi véritablement, sauf que j'avais bien évidemment entendu des gens qui partaient en Belgique, d'autres en Suisse, que c'était pas forcément satisfaisant. On parle beaucoup des cas de la maladie de Charcot, etc. Donc ça, ce sont des thèmes, des reportages qu'on peut voir sur vos radios ou à la télé. Donc je m'étais dit qu'il devait y avoir un problème.
Mais il y a des questions que vous ne vous étiez jamais posées, que vous pensiez ne jamais vous poser et qui ont été abordées.
Par exemple, un sujet qui m'a vraiment touchée, c'était tout ce qui était autour des enfants, tout ce qui est en néonatalogie. C'est-à-dire tous ces enfants pour lesquels en fait on ne peut rien faire et on va laisser mourir les enfants. Ça va prendre du temps, même avec la loi Claeys-Leonetti qui prévoit une procédure particulière et qui fait que on perd du temps et surtout il y a beaucoup de souffrance et pour l'enfant et pour la famille et pour les soignants.
Justement, la grande question à laquelle on vous a demandé de répondre était: le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits, sous-entendu, dans cette fameuse loi Claeys-Leonetti? Kenza Okandé, on sait déjà que 72% des citoyens de cette convention se sont prononcés pour le suicide assisté, c'est-à-dire s'injecter soi-même un produit létal. L'euthanasie, beaucoup moins de suffrages. Pourquoi cette différence? Pourquoi le suicide assisté a recueilli plus d'approbation que l'euthanasie?
Alors, je laisserai aussi Nathalie un peu répondre sur ce sujet-là, sur le fond même. Mais je pense que c'est ce que Nathalie disait. En fait, les citoyens, les citoyennes sont arrivés avec une position, parfois certains un peu de connaisseurs, mais d'autres, voilà, en ayant juste entendu parler du sujet. Et je pense que c'est tout ce débat-là qui a permis de forger une opinion. Oui, aujourd'hui normalement la Convention citoyenne va voter avec un axe majoritaire qui est une ouverture de l'aide active à mourir, avec au choix suicide assisté et euthanasie, avec plus un plus de en effet de développement autour du suicide assisté.
La réponse sera oui.
La réponse sera majoritairement oui. Mais en même temps, il y a aussi ce dont vous disiez, les 67 premières propositions qui sont sur le cadre général et en fait qui est au-delà du changement légal qu'on pourrait demander. Il y a des changements à faire. Donc en fait, c'est cet équilibre-là entre le système de santé actuel, les soins palliatifs et après l'euthanasie, le suicide assisté. Et en fait, je pense que c'est aussi en se forgeant son opinion, parce qu'on a fait énormément d'auditions, on a programmé énormément de choses, beaucoup d'échanges avec des professionnels de santé, avec des aidants, avec des gens concernés. Et je pense que c'est grâce à ça, au final, que les 184 citoyens ont réussi à arriver quand même sur cette vision majoritaire.
Nathalie Berriot, justement, sur ce suicide assisté qui recueille plus de suffrages, c'est aussi en rapport avec la question du rôle des personnels soignants, ne pas les impliquer quand ils ne veulent pas être impliqués.
Exactement, c'était une des positions des groupes d'opinion, parce qu'on avait pas mal de groupes d'opinion. Pour information, on a 19 modèles qui sont proposés, plus un groupe de refus. Donc vous voyez quand même la nuancier des opinions qu'il y avait au sein de la convention. Et pour beaucoup, c'était dans le contexte actuel de notre système de santé qui est extrêmement malmené, demander en plus aux soignants de faire ce geste-là, ça n'était pas pensable pour eux.
Une soignante, nous rejoint justement au 32-16. Bonjour Carole.
Bonjour.
Vous êtes aide-soignante en EHPAD à Périgueux. Que retenez-vous de ce qui vient d'être dit sur RMC par Nathalie Berriot, par Kenza Okanze?
Ça fait, entre guillemets, de mon point de vue, hein, ça fait un peu plaisir à entendre, dans le sens où on avance en espérant que ça aille jusqu'au bout, parce qu'on est sacrément en retard en France. Encore cette nuit, on a parlé à un monsieur, sa fille est en train de se renseigner pour aller en Belgique. C'est un monsieur qui... Voilà, pourquoi on ne peut pas le faire en France, en fait? Ça m'embête que ce monsieur, de par ses pathologies, il a toute sa tête. Il a le droit de choisir l'endroit de sa mort, la façon...
Et Carole, justement, oui, vous qui êtes aide-soignante dans le milieu médical, est-ce que vous avez un avis sur la personne qui doit accompagner le malade sur sa fin de vie, qui doit participer à l'aide active à mourir?
Après, ça revient pas de mon rôle propre, dans le sens où je suis un médecin, je comprends que certains soient réticents, parce que notre formation n'est pas là pour ça. Mais ça fait partie, pour moi, hein, ça fait partie à part entière du prendre soin.
Ça fait partie de votre métier. Vous seriez prête, vous, aide-soignante en EHPAD, à accompagner un patient qui souhaite mettre fin à ses jours, Carole?
À faire le geste si on n'aura pas l'autorisation dans le cas, parce que c'est un acte médical et qu'il y a des responsabilités à avoir, donc c'est pour ça que c'est un médecin. Mais on fait déjà de l'accompagnement de fin de vie.
Nathalie Berriot.
Oui, je veux bien réagir sur ce que vous venez de dire, Carole. C'est vrai que nous, ce qu'on s'est dit pour beaucoup, c'est que en fait, le suicide assisté et l'euthanasie, c'est la contrepartie des progrès de la médecine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine est extrêmement puissante, elle est vraiment triomphante, elle nous permet de passer des maladies extrêmement compliquées, sauf que ça amène un certain nombre de personnes en fin de vie à vivre des situations très compliquées. Qu'il nous semble que effectivement, le prendre soin, c'est accompagner les personnes en fin de vie. Et du coup, pour celles qui voudraient en finir, les aider à passer ce cap-là en toute solidarité avec tout le monde.
Énormément de réactions ce matin au 32-16. Accueillons tout de suite Marguerite, un autre auditeur.
Nous accueillons Roland en direct sur RMC. Bonjour Roland.
Bonjour.
Vous êtes dans un cas très particulier. On a commencé à l'évoquer à l'instant. Vous êtes atteint de la maladie de Charcot, Roland.
Tout à fait.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça signifie, vous, pour votre vie quotidienne, votre vie future?
La vie future est vite faite. Il me reste quelques mois. Je suis tombé malade il y a un an à peu près. On m'a détecté cette maladie en août 22. Et ce qui se passe, Elle m'a prise, elle s'est déclarée sur la partie finale. J'ai le diaphragme qui fonctionne presque plus. Donc, vous voyez, je peine à respirer et tout. J'ai un assistant la nuit pour l'air, pour me changer mon air et tout. Et après, ben, je suis en train de régresser. J'ai pris 20 ans de corps. J'ai vieilli en 20 ans, quelques mois.
En quelques
j'ai
mois.
J'ai plus de force, oui.
Roland.
J'ai les muscles et tout qui sont atrophiés. Et bientôt, là, je vais être en fauteuil. Et j'aurais voulu mourir dignement.
Dignement, Roland, dans votre pays qui est la France, sans avoir besoin de vous rendre en Suisse ou en Belgique, qui sont les deux pays les plus proches de l'Hexagone, où ces pratiques sont autorisées.
Kenza, je vais faire la recherche bientôt pour la Belgique.
Oui, vous êtes prêt, vous, à faire le voyage?
Ah oui, j'ai toute ma tête. Je vais jusqu'au bout, j'aurai toute ma tête. Mais je ne veux pas finir dans un lit en palliatif.
Vous tenez à obtenir ce droit de partir lorsque vous le souhaitez, Roland. Et c'est peut-être ça qu'il faut aussi souligner, Kenza Okanze, c'est accorder un droit nouveau à ceux qui le souhaitent sans enlever de droit à ceux qui ne le souhaitent pas.
Exactement. La question de la Première ministre était d'ailleurs répondait assez bien à cette situation, puisque c'était le cadre d'accompagnement de la fin de vie, est-il adapté aux différentes situations. Et aujourd'hui, on a des témoignages, on a des experts, on a des gens qui en parlent, et justement et d'après les citoyennes et les citoyens, qui expliquent que le cadre actuel, et là de toute façon ça a été un vote extrêmement fort de la Convention, qui disent que le cadre aujourd'hui n'est pas adapté. Mais en effet, il n'y a pas d'opposition, et c'est ça qu'on a voulu construire, il n'y a pas d'opposition entre soins palliatifs et aide active à mourir. La manière dont les citoyennes et les citoyens ont construit ça, c'est de dire ça doit travailler ensemble. Et même d'ailleurs, quand on parle entre suicide assisté, euthanasie, et le gros débat de qui le fait, est-ce que c'est le personnel médical, est-ce que c'est la personne, il y a quand même eu un consensus qui est ressorti sur le cadre d'accompagnement et de santé, ce que Nathalie disait, pour accompagner le patient. Donc en effet, il n'y a rien d'excluant dans ce que la Convention citoyenne va proposer.
La Première ministre Elisabeth Borne, qui avait commandé cette Convention citoyenne, prendra connaissance de vos conclusions dès cet après-midi. Emmanuel Macron recevra une délégation demain à l'Élysée. Il prévient déjà, Emmanuel Macron, ça n'est qu'à point d'étape, cette Convention. Comment faire, j'allais dire, pour ne pas que cette Convention citoyenne sur la fin de vie connaisse le même sort que d'autres conventions citoyennes sur le climat, pour la nommer?
Alors, nous, on pense qu'on a réussi notre première étape. C'était à nous d'organiser une convention citoyenne avec des citoyens pour éclairer la décision publique, être capable de donner un premier résultat. Si aujourd'hui la convention citoyenne se termine, le sujet fin de vie n'est pas terminé. On a assisté à une grande ouverture d'un débat national, c'est-à-dire chez les gens, dans les espaces éthiques régionaux, chez les professionnels de santé, le débat s'est réellement installé dans la société. Aujourd'hui, c'est aux politiques de le refermer en quelque sorte en activant ce qu'ils voudraient activer. On ne demande pas particulièrement que absolument tout soit repris, mais par contre, on veut être clair sur comment la Convention citoyenne aura éclairé le débat public et ce qui sera fait en termes politiques par la suite.
Il y a un enjeu majeur démocratique à répondre à nos travaux dans un contexte où les citoyens sont éloignés de leurs institutions et ont de moins en moins confiance en leurs représentants politiques. C'est Claire Toury qui dit ça, la présidente du comité de gouvernance de cette Convention. Nathalie Berriot, ne pas vous écouter, ce serait une erreur politique de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron?
Clairement, bien sûr. Je reviens juste entre la Convention citoyenne sur le climat et la Convention citoyenne sur la fin de vie. Je pense que le gouvernement a bien compris qu'il fallait ne pas proposer les mêmes choses. Nous n'avions pas à faire un projet de loi. Nous avions à éclairer la décision publique, ce qui est complètement différent. Et ce qui fait que, comme vient de le dire Kenza, si on prend certaines parties, mais pas tout, on ne sera pas choqué, ça fait partie du jeu. Mais je crois que avec la deuxième convention citoyenne. On a eu des chercheurs pendant toute cette convention citoyenne, on a eu des garants, on a eu beaucoup de gens, parce qu'en fait on est regardé de par le monde sur cette façon de produire et de délibérer. Si le gouvernement et le politique ne s'en saisissaient pas, balayaient d'un revers de main nos conclusions, ce serait absolument dramatique. Et ce que je voulais dire, c'est que nous en sommes à la troisième convention citoyenne sur le sujet. C'est-à-dire que les autres n'avaient pas ce format-là, mais là, je pense que autant nous, c'est-à-dire la population, le peuple, etc., on est prêts. Maintenant, il faudrait vraiment que les politiques et le gouvernement fassent le pas et avancent.
Le message est lancé et il sera renouvelé, à mon avis, cet après-midi et demain à l'Élysée. Je voudrais vous remercier, j'allais dire au nom du peuple français, en tout cas en mon nom personnel, au nom de tous les citoyens, pour votre investissement. Parce que tout de même, depuis début décembre, combien de week-ends ? 9 week-ends, 27 jours au total, ouais. Des allers-retours parfois depuis l'outre-mer, ouais. Depuis Villeurbanne, pour vous Nathalie Berriot, documentaliste là-bas. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RMC. Merci Kenza Okanze, membre merci. Du comité de gouvernance de cette convention citoyenne. Un énorme merci aussi à Roland
et Carole, oui.
Très fort ce matin, et à Carole, aide-soignante. Vous êtes sur RMC, il est bientôt 9h.